Bonjour à chacun, notamment à ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer encore. Je vous propose d'ouvrir vos Bibles dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 23. Luc 23. Et nous lirons les versets 33 à 43. Mais on va simplement s'arrêter sur les versets 39 à 43. Ainsi dit la parole de Dieu. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé le crâne, ils le crucifièrent, là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Quant au chef, il raillait Jésus en disant, « Il a sauvé d'autres. Qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ, élu de Dieu. » Les soldats aussi s'approchèrent pour se moquer de lui, et lui présenter du vinaigre, en disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs, suspendu en croix, blasphémait contre lui « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre lui fit des reproches et dit « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos actes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Quel est le minimum que vous devez croire ou que vous devez savoir pour être sauvé? Et si vous êtes chrétien ce matin, quelle est la quantité d'informations que vous devez communiquer à ceux qui vous entourent si vous voulez leur faire connaître fidèlement le message du salut? C'est une question assez pratique et en même temps, je pense, d'une grande importance. La Bible est claire, ce ne sont pas tous les messages qui sauvent, ce ne sont pas tous les Christs qui sont porteurs du salut. Et donc c'est crucial pour nous, pour chacun de nous, d'être au clair sur ce qui est attendu d'un pécheur afin qu'il soit réconcilié avec Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cela, mais il arrive parfois que l'on entende des choses comme la doctrine divise. L'important, c'est d'aimer Jésus, mais pour le reste, voilà, ne discutons pas trop des considérations plus précises concernant la personne de Jésus. Et parfois, pour appuyer un tel propos, on prend l'exemple de celui qu'on appelle le bon larron. On l'a appelé le bon larron, non pas parce qu'il était quelqu'un de moral, mais en comparaison, en contraste, avec l'autre brigand crucifié qui ne s'est pas repenti. Et on désigne ce bon larron comme étant la preuve que, finalement, nous n'avons pas vraiment de nécessité de nous tracasser sur le contenu précis de notre foi, tant que nous honorons Jésus, tant que nous avons un attachement concernant le Christ. Et donc, parfois, le bon larron est un peu la figure de celui qui ne sait presque rien et qui est quand même sauvé. Alors je demande, est-ce vraiment le cas? Est-ce que ce brigand a une, on pourrait dire, théologie minimaliste? Est-ce que ce que ce brigand croyait était indifférent? Eh bien j'aimerais voir avec vous, ou faire avec vous ce matin, l'examen de la théologie de ce bon larron, ou l'examen de sa foi. Qu'est-ce qu'il croyait? Et nous allons pour ça être très attentifs aux versets 39 à 43 et creuser un petit peu les déclarations de ce bon larron. Ce sera le premier point. Examinons la foi du bon larron. Puis, nous verrons ensemble la réponse du Seigneur Jésus à la déclaration de foi de ce bon larron. Et enfin, nous terminerons avec quelques applications. Premièrement, versets 39 à 40, notons ensemble ce brigand sur la croix craint Dieu. L'un des malfaiteurs, verset 39, suspendu en croix, blasphémait contre lui. « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre lui fit des reproches et dit « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ?» La mort est décrite de différentes manières dans la Bible, et l'une des manières dont on peut décrire la mort, c'est un peu comme ce gendarme qui nous conduit dans le couloir jusqu'à la pièce principale du tribunal, devant le juge, afin de recevoir le verdict, la sentence. Et chaque être humain sera amené, un jour ou l'autre, devant le tribunal de Dieu. Le larron le demande à son camarade, « Ne crains-tu pas Dieu ?» Et on pourrait se demander, mais pour quelle raison lui pose-t-il la question? Ou qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il me semble qu'on pourrait reformuler sa question ou préciser comme « Toi qui es aussi condamné à mort, n'as-tu pas de bonnes raisons de craindre le jugement de Dieu, de prendre au sérieux les circonstances qui sont les tiennes? Tu t'apprêtes à rencontrer ton Dieu. Es-tu prêt ?» Et certainement, ce bon larron pose la question parce que le brigand qui insultait le Seigneur Jésus démontrait par sa légèreté et ses moqueries le fait qu'il n'était pas très lucide sur la solennité et l'importance des circonstances qu'il vit. Il est à quelques instants de passer une fois pour toutes dans l'éternité et pourtant il se moque. Donc un premier point sur la théologie de ce bon larron, il croit en la justice de Dieu, c'est évident. Il croit à l'existence d'un jour du jugement pour chaque âme. Et il est conscient que la mort, on pourrait le dire en quelque sorte, n'est que la suite de cette existence déjà commencée sur terre, dans notre corps. Et la suite de cette existence sera déterminée par la sainteté de Dieu. Il craint Dieu, car Dieu juge. Je vous propose d'en retirer trois leçons. La première, c'est que nous avons là la confirmation de ce que Salomon disait dans les Proverbes. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Proverbe 9, verset 10. Autrement dit, la sagesse ou la lucidité, être logique, être raisonnable, c'est de craindre Dieu. Ce n'est pas ici une crainte tétanisante, une crainte qui paralyse, comme on craindrait, par exemple, pour un enfant battu, le retour à la maison d'un père violent et versatile, qui changerait à tout moment sans bonne raison. Ce n'est pas cette crainte-là dont la Bible nous parle. Elle nous parle d'une crainte raisonnable. Si je peux prendre une image qui sera imparfaite, mais qui pourra nous aider peut-être, c'est la crainte de celui qui voit un lion derrière une cage. Il n'est pas complètement tétanisé. En revanche, l'idée d'ouvrir la cage, on va dire, le met en... Ça le rend circonspect, n'est-ce pas? Ça le rend solennel et sérieux. Ce n'est pas une éventualité qu'il veut envisager. C'est une crainte raisonnable, lucide. Ou prenons une autre image encore, c'est la crainte de celui qui voit défiler les forces de l'ordre. Et quand bien même il n'aurait rien fait de mal à l'instant, il y a ce rappel de la justice, ce rappel d'une justice qui s'oppose au mal, qui s'oppose à l'injustice. Le larron invite son camarade à se poser la question. N'es-tu pas raisonnable? Ne vois-tu pas les circonstances qui sont les nôtres? Nous voilà crucifiés et prêts à rencontrer Dieu. Première utilité, donc, nous avons la confirmation ici que la sagesse, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Et je termine en précisant ceci. Évidemment, ce n'est pas une sagesse humaine. Parce que la sagesse humaine nous dirait l'inverse. Ne craignons pas Dieu. Mais je ne crois pas que ça corresponde à ce que le Christ lui-même a enseigné. Prenez avec moi, je n'avais pas prévu de le lire, mais je pense que c'est utile, dans Ésaïe au chapitre 11. Ésaïe, plus de 7 siècles avant Jésus-Christ, a prophétisé au sujet du Messie, au sujet de Jésus, et voilà comment il le décrit. Chapitre 11, versets 1 à 3. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, c'est-à-dire de l'ancêtre de David. Un rameau, un homme va pousser, va sortir, il va naître, il va venir un homme, descendant d'Isaïe, descendant de David. Et le rejeton de ses racines fructifiera. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, comme on l'a vu notamment lors du baptême du Christ, où sous la forme d'une colombe, le Saint-Esprit descend sur le Christ Jésus. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de vaillance, esprit de connaissance, écoutez bien, et de crainte de l'Éternel, verset 3, il respirera dans la crainte de l'Éternel, il ne jugera pas sur l'apparence, il n'arbitrera pas, sur un oui-dire. Et la suite nous parle de sa justice, de sa fidélité, de sa droiture, etc. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Deuxième utilité de ce que nous retirons de cette foi du larron, sa foi qui contient l'élément suivant, il est important de craindre Dieu, eh bien, c'est que nous pouvons dire de lui qu'il est certainement humble et donc sur le chemin du salut. Proverbe 15, verset 33, l'humilité précède la gloire, n'est-ce pas? Et ce larron est très conscient de sa basse condition, de sa misère devant Dieu. Et bien plutôt que d'imiter son camarade, de bomber le torse face à l'imminence d'un jugement sans appel, il s'abaisse, il s'humilie. Et cette humiliation propre, cette auto-humiliation, cet abaissement, cette humilité est certainement le premier pas sur le chemin du salut. L'humilité précède la gloire. Et qu'est-ce que la gloire, sinon la présence même de Dieu? Troisième et dernière leçon que nous pouvons retirer de cette crainte de Dieu qui est présente dans la foi de ce bon larron, dans sa théologie, c'est que la crainte de l'Éternel, la crainte de Dieu, ne peut pas être dissociée de la personne de Jésus-Christ. Pour le dire autrement, craindre Dieu ou plaire à Dieu, c'est reconnaître l'honneur et la dignité de Jésus. Relisons ensemble. L'un des malfaiteurs suspendus en croix blasphémait contre lui. Contre qui? Contre le Christ Jésus. Il l'insultait, il lui manquait de respect d'une manière entière. Et c'est cette scène, cet événement qui a suscité dans le bon larron cette question. Ne crains-tu pas Dieu? Autrement dit, il y a un lien direct entre notre relation à Dieu et l'honneur que nous rendons, que nous donnons au Christ Jésus. Honorer Dieu, c'est honorer Jésus, ou pour le dire d'une manière qui convient plus au texte, honorer Jésus, c'est honorer Dieu. Pensez à ce que Jésus dira dans Jean chapitre 5, Le Père ne juge personne, mais a remis tout jugement entre les mains du Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Il est impossible de plaire à Dieu. Il est impossible de craindre Dieu d'une manière qui lui plaise, d'une manière logique et sensée, et en même temps négliger, ou voire même mépriser, le Fils de Dieu. Voilà pour le premier point de la théologie de ce bon larron. Venons-en au deuxième point, versets 40 et 41. « Mais l'autre lui fit des reproches et dit, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos actes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Nous voyons ici que ce bon larron croit deux choses, en plus de la nécessité de craindre Dieu. Il croit en la culpabilité des hommes et en l'innocence de Jésus-Christ, homme. Il croit, je le répète, en la culpabilité des hommes et en l'innocence de Jésus-Christ, homme. Regardez avec moi à nouveau, verset 41, « Pour nous, pour toi et moi, pour nous brigands, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos actes. » Il parle ici du mérite moral de sa conduite, de ce que ses œuvres, de ce que ses actes ont mérité, lui ont gagné, on pourrait dire comme salaire. Et quel est le salaire aux yeux de ce brigand qui est mérité pour des brigands, pour des pécheurs, eh bien, c'est de recevoir un jugement de condamnation. Il estime même juste que ce soit exécuté par la main même d'autres hommes. Hein, remettez-vous dans le contexte ici, nous sommes dans la Rome, en tout cas dans l'Empire romain, pardon, du 1er siècle, et la crucifixion est probablement à cette époque, l'une des pires manières d'exécuter un condamné à mort. Et les Romains étaient chargés, et en particulier les soldats romains étaient chargés d'exécuter cette sentence. Et voilà que ce brigand est en croix, certainement bientôt en train d'asphyxier, et il a encore la lucidité pour dire « Pour nous, c'est justice. Pour nous, c'est justice. » Je ne sais pas vous, mais je trouve stupéfiant de lucidité et admirable la simplicité et le caractère très, très vrai de cet homme. Combien d'entre nous, et je me pose à moi-même la question, combien d'entre nous sommes capables aussi simplement et aussi facilement de reconnaître que nous ne méritons pas la faveur de Dieu ? Et que, comme la Bible le dit, le salaire du péché, c'est la mort, et que du coup, lorsque nous mourrons, combien d'entre nous pourront dire « c'est justice » ? Nous y reviendrons tout à l'heure quand il s'agira d'imiter la foi de ce bon larron. Il se reconnaît coupable, donc, et nous pouvons donc affirmer qu'un des éléments de sa foi, c'est la nécessité de reconnaître notre culpabilité, notre démérite devant Dieu. On commence à voir déjà, si vous ne l'avez pas déjà vu avant, que ce larron a probablement une théologie plus robuste, un ensemble de convictions, une foi plus nourrie, plus fournie, qu'on pourrait le voir au premier abord. Revenons au verset 41. Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos actes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Je l'ai dit, il croit en la culpabilité des hommes, mais il croit aussi en l'innocence, en l'impeccabilité, au caractère profondément irréprochable de Jésus-Christ, homme. Quant au Christ, ce brigand pieux est persuadé de son innocence, il est persuadé qu'il ne mérite pas de partager ce sort avec eux. bien qu'il soit mis à mort comme un malfaiteur, il est l'inverse d'un brigand. Une des implications très claires, c'est que si Christ meurt, bien que n'ayant pas mérité de mourir, c'est qu'il ne meurt pas pour ses fautes, mais il meurt à cause d'autres, nécessairement. Il s'unit aux pécheurs en assumant la même condamnation qu'eux, bien qu'il n'ait pas commis la même transgression qu'eux. Mais nous allons le voir, parce qu'il est innocent, la mort ne pourra pas le retenir. Pour ceux qui connaissent l'Évangile et qui ont déjà lu l'Évangile, 3 jours après sa mort, il se relèvera d'entre les morts. Et Dieu, le ressuscitant ainsi, déclarera aux yeux du monde entier que cet homme est innocent. Il est le juste que Dieu envoie pour sauver les injustes. Le seul que la mort ne pouvait pas retenir, parce que la mort n'a de droit et de pouvoir que sur des pécheurs, que sur vous et moi. Et le larron le croit. Il croit que Jésus-Christ ressuscitera. C'est ce que nous allons voir maintenant. Dans cette troisième et dernière partie du premier point, du coup, si vous avez suivi. Je répète ce qu'on a vu jusqu'à présent. Premier élément de la foi de ce larron, il craint Dieu. Et il estime que c'est nécessaire, normal, logique. D'autant plus que les circonstances s'y prêtent, particulièrement. Deuxième chose que nous avons vue, c'est qu'il croit en la culpabilité des hommes. Il se reconnaît coupable, sans mérite devant Dieu, que son sort n'est que justice. Et en ce sens, il est un peu aux antipodes de ce que nous voyons souvent autour de nous, où lorsqu'il arrive un malheur dans ce monde, nous sommes prompts et rapides à lever notre poing vers Dieu, comme si Dieu nous devait quelque chose et que nous, nous étions tout à fait méritants, tout à fait justes, tout à fait irréprochables, comme si nous étions le Christ. Ce larron non seulement croit en sa culpabilité et en la culpabilité des hommes, mais il croit aussi en l'innocence de Jésus-Christ. Et nous allons voir maintenant, versets 42 et 43, qu'il croit que Jésus est Seigneur, il est le roi, le Christ, et il est aussi le Sauveur, celui qui nous délivre de la folie de nos actions, la folie de nos œuvres, et aussi de la condamnation que nous méritons. Il est celui auprès duquel se trouve le pardon dont nous avons tant besoin. Voyons ensemble, verset 42. Et il dit, donc c'est le larron qui s'adresse à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Commençons d'abord avec cette partie du discours du larron, du bon larron, « Tu viendras dans ton règne. » Étrange comme formulation, n'est-ce pas? Imaginez la scène. 3 hommes crucifiés qui vont mourir, pour certains d'entre eux, dans quelques heures, pour d'autres, dans quelques minutes. Et probablement, il y avait d'autres hommes crucifiés un peu plus loin. Okay? Et quelqu'un qui passe et qui voit cette scène n'imagine pas une seconde que l'un d'entre eux en sorte vivant. La crucifixion était le moyen d'exécution qui, lorsqu'il était prononcé, faisait trembler tous ceux qui l'entendaient. Comment est-ce que ce larron peut-il parler au futur quand, a priori, sur le papier, en tout cas, tout indique que Christ ne reviendra pas, mais qu'il mourra? Eh bien, si nous en doutions avant, je crois que cette affirmation du larron montre clairement et sans aucun doute que dans son esprit, il est évident que le Messie, que le Christ, que celui dont les prophètes ont parlé dans les temps anciens doit vivre toujours. Il reconnaît que celui qui est crucifié à côté de lui est le Messie, justement, le Seigneur de la vie. C'est maintenant évident. Il est celui que Dieu a désigné pour exercer toute autorité dans les cieux et sur la terre et régner sur le trône de David, comme le dit le prophète Nathan, de manière perpétuelle, un règne sans fin. Il s'adresse donc au Christ comme on s'adresse à un roi, parce qu'il reconnaît en Christ le roi promis. Tu viendras. Qu'est-ce que c'est sinon la déclaration de foi de ce larron concernant l'éternité, ou on pourrait dire l'immortalité du Christ en quelque sorte? Oui, il mourra, mais dans 3 jours, il se relèvera des morts selon les Écritures. Ensuite, verset 42 toujours, « Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. » À la fois, cette expression confirme ce qu'on vient de voir sur le fait que ce larron croit, hein, que le Christ vivra encore, mais il y a plus ici. « Souviens-toi de moi. » C'est une demande d'un homme en détresse, n'est-ce pas? La demande d'un homme qui est dans un péril et qu'il adresse à quelqu'un dont il est convaincu qu'il a le pouvoir de l'en délivrer. C'est cette même parole que nous trouvons dans Juges, chapitre 16, dans le livre des Juges, dans la bouche de Samson. Voilà Samson qui est à la fin de sa vie, attrapé maintenant par les Philistins, qui se moquent de lui, ils lui ont percé les deux yeux, et ont fait de lui un peu un phénomène de cirque. Ils l'ont attaché à des chaînes, ses cheveux ont été coupés, il a perdu la force et la faveur de Dieu. Et voilà que dans un dernier élan de foi, il se confie en Dieu et dit « Souviens-toi de moi encore cette fois-ci. » C'est aussi la même expression qu'emploiera David. Tournez avec moi les pages de votre Bible dans le psaume 25. Et lisons ensemble ce que David adresse comme parole, comme demande à l'Éternel. Psaume 25, à partir du verset 7, et nous lirons jusqu'au verset 13. Ne te souviens pas des péchés de ma jeunesse, ni de mes révoltes. Souviens-toi de moi, selon ta bienveillance. À cause de ta bonté éternelle. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs le chemin. Il fait cheminer les humbles dans la justice. Ça devrait faire écho à ce qu'on a déjà dit, n'est-ce pas? Tous les sentiers de l'Éternel sont bienveillance et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses préceptes. C'est à cause de ton nom éternel que tu pardonneras ma faute, car elle est grave. Il reconnaît sa culpabilité et son démérite. Mais pourquoi est-ce qu'il s'attend au pardon? Non pas parce qu'il est bon, il n'est pas bon, mais parce que Dieu est bon. C'est ce que signifie « à cause de ton nom », à cause de ta réputation, à cause de ton caractère. Verset 12. « Quel est l'homme qui craint l'Éternel ? » L'Éternel lui montre le chemin qu'il doit choisir. Vous voyez, on retrouve aussi là l'élément de la crainte, un peu avant l'élément de l'humilité, l'élément de la reconnaissance de notre culpabilité. Verset 13, enfin, « Son âme, l'âme de celui qui craint Dieu, son âme reposera dans le bonheur et sa descendance possédera le pays. » Ce bon larron, donc, croit que Jésus est celui que Dieu, nous l'avons dit, a envoyé pour sauver les pécheurs. par grâce et non par leurs œuvres. En Christ se trouve le pardon pour les pécheurs qui craignent Dieu et qui s'humilient devant Dieu et devant les hommes. Il ne craint pas de reconnaître devant son camarade « je mérite ce sort ». Voilà pour la théologie de ce bon larron, pour le contenu de sa foi. Est-ce que ça vous paraît être une théologie minimaliste, une foi abstraite, un contenu... C'est très clair. Il s'inscrit dans la lignée des croyants de tous les temps. C'est cette foi transmise au sein une fois pour toutes dont Jude nous parle. Cet évangile qui avait déjà été annoncé à Abraham, comme nous le dit Paul dans l'Épître aux Galates. Cet évangile déjà annoncé même à Adam et Ève dans le jardin dès qu'ils ont péché, lorsque Dieu a parlé de ce descendant qui viendrait écraser la tête du serpent. Autrement dit, qui viendrait mettre un terme au règne du mal, du diable et du péché. Comment ? En souffrant. Tu lui mordras le talon et il t'écrasera la tête. Et qui est ce descendant sinon Christ, présent aux côtés de ces brigands ? Quelle est sa réponse ? C'est la deuxième partie qui sera plus courte. Examinons la réponse de Jésus après avoir examiné la théologie du larron, du brigand. Verset 43. Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Nous pouvons noter au moins deux choses de cette réponse du Christ Jésus. D'abord, noter le fait qu'il répond tel un seigneur. Il répond comme un prince, comme le prince de la vie. D'abord, il dit « en vérité », expression qui se retrouve souvent dans la bouche du Christ, comme pour souligner à celui qui l'écoute « crois-moi, crois-moi ». Parce que Jésus est la vérité et parce que dans sa bouche, Pierre le dit, l'apôtre, il ne s'est trouvé jamais aucun mensonge. Il est le seul à pouvoir exiger et exhorter ceux qui l'écoutent à une foi totale, pleine et sans réserve. En vérité, dit Jésus. Tu veux entendre, cher brigand, quelque chose de fiable, quelque chose sur quoi tu peux appuyer ta foi, plus solide que le béton armé ? Eh bien, écoute ma parole, en vérité. Il parle effectivement comme le prince, le seigneur du monde, celui autour duquel s'articule la réalité, celui qui définit même la réalité. Puis il ajoute, je te le dis, comme pour appuyer, comme pour sceller ce qu'il vient de dire lorsqu'il dit en vérité. Je te le dis, c'est moi qui te parle, c'est mon décret royal, ma parole de Seigneur. Je décide que, autrement dit, en vérité, je te le dis, et notons enfin, aujourd'hui. Voyons là l'efficacité du salut que le Christ procure. C'est un salut sans délai. C'est un salut qui a un effet immédiat. Autrement dit, aussitôt que vous placez votre confiance en Christ, il n'y a pas de suspense ni d'attente particulière. Vous passez du royaume des ténèbres au royaume du Fils de Dieu. Vous passez de la mort à la vie. Vous passez de l'esclavage du péché et de Satan au service bienheureux et béni et agréable et délicieux de Dieu, du Dieu vivant. Aujourd'hui. Et quelle quantité d'œuvres aura-t-il à accomplir afin que s'accomplisse cette parole royale Quelle œuvre aura-t-il l'occasion d'accomplir, lui le crucifié ? Est-ce que nous voyons la gratuité du salut de Dieu ? Cette gratuité qui devrait nous choquer, nous étonner, nous interpeller, nous émerveiller. Ce brigand porte bien son nom. On ne connaît pas son prénom et il sera retenu dans l'histoire comme étant un brigand. Autrement dit, aucun mérite de sa part, aucune vertu, aucune raison a priori de le trouver aimable. Et cet homme, dont la vie se résume à ce titre, brigand, crucifié, s'entend dire de la part du Christ Jésus, « En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras au paradis avec moi. » Deuxième et dernière chose que nous pouvons noter de la réponse de Jésus, nous avons vu que le Christ Jésus parle comme le prince, comme le Seigneur, et nous voyons maintenant que le Christ Jésus confirme la définition du salut que le larron possède. Il confirme sa conception du paradis, sa conception de qu'est-ce que c'est être sauvé, qu'est-ce que c'est entrer dans le paradis. Souvenez-vous, que dit le larron un peu plus tôt ? Il dit « Quand tu viendras. » Et que répond Jésus ? « Tu seras avec moi. » Chers amis, si vous avez une définition du paradis, si vous avez une définition du bonheur suprême, si vous imaginez le ciel et la félicité éternelle, et que dans cette image, le Christ n'y est pas. Vous ne parlez pas du paradis qui existe vraiment. Et je crains que vous n'ayez pas compris où se trouve votre intérêt et le bonheur de votre âme. Être sauvé, entrer dans le royaume des cieux, avoir la vie éternelle, la vraie, c'est être avec Christ pour toujours, dans sa présence bénie, sous son influence glorieuse et bienfaisante et épanouissante. Lui qui est capable de laver la souillure attachée à notre âme, par son sacrifice. Lui qui est le bon berger, qui donne sa vie pour ses brebis et sait les conduire, les faire sortir et rentrer en sécurité. Lui qui connaît votre âme mieux que vous-même, vous ne la connaissez. Le paradis, c'est être auprès de Jésus. Je nous exhorte. À corriger notre pensée si elle ne correspond pas à celle-ci. Notre pensée au sujet de la vie après cette vie. Car il n'y a rien de plus épanouissant, rien de plus important, rien de plus glorieux que d'être dans la présence de Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Autrement dit, Jésus, pour finir, confirme cette déclaration de foi de ce bon larron. Il donne le sceau, il contresigne, on pourrait dire. Il lui assure le fait qu'il est réconcilié avec Dieu dès cet instant et qu'il est, une fois pour toutes, sauvé. J'en viens à quelques applications. Que faut-il donc savoir pour être sauvé ? Et si vous êtes sauvé, que devez-vous communiquer à ceux qui vous entourent et qui ne le sont pas encore ? Eh bien, on pourrait résumer finalement ce que le larron ici croit et fait de deux façons. En tout cas, il fait deux choses. La première, c'est qu'il confesse, et la deuxième, c'est qu'il demande. Une confession et une demande. Il confesse, c'est-à-dire qu'il reconnaît. Hein, confession, c'est ça vient d'un terme qui veut dire dire la même parole que. Et ici, en l'occurrence, c'est dire la même parole que Dieu. Dieu dit que nous sommes pécheurs et ce larron reconnaît sa culpabilité. Dieu dit qu'il est juste et ce larron le confesse aussi en disant « ce n'est que justice ». Le premier pas pour recevoir le salut, c'est de confesser, d'aligner notre parole, notre vision de la réalité sur le regard de Dieu. Nous avons une vision qui est très limitée. Regardez autour de vous, au-delà de ces murs, que pouvez-vous voir? Dieu est au-dessus de tout. Il n'y a rien qui échappe à sa sagesse. Et même les profondeurs de nos âmes lui sont connues. Même les endroits qui nous paraissent ténébreux en nous sont à ses yeux comme un grand jour de grand soleil. Alignons nos pensées, alignons notre conviction sur celle de Dieu. Première chose, donc, confessons. Confessons que nous sommes pécheurs, confessons que Dieu est juste, confessons que nous sommes coupables et que nous ne méritons pas la grâce de Dieu. Puis, demandons. Demandons à Dieu le pardon. Demandons à Dieu la vie éternelle. Demandons à Dieu la pitié, la grâce. Seul un cœur orgueilleux et endurci, n'est-ce pas, refuserait, devant toutes les évidences, de demander grâce. Et réfléchissons un instant. Un cœur orgueilleux qui refuse de demander grâce, n'est-il pas son propre bourreau? Lorsque le pardon lui est présenté, lui est même offert gratuitement, est-ce que s'endurcir et refuser ce qui nous ferait du bien ne fait pas de nous notre plus grand persécuteur, nous-mêmes? Oh, demandons. Demandons comme ce larron l'a demandé et attendons-nous à recevoir une réponse similaire. Comment a-t-il demandé? Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Oh, fais-moi grâce, aie pitié de moi, sauve-moi, pardonne-moi, donne-moi la vie éternelle, accueille-moi auprès de toi. Car si tu dis oui, alors je pourrai entrer. Car le Seigneur ouvre et personne ne peut fermer, le Seigneur ferme et personne ne peut ouvrir. Lisons un dernier texte pour finir, et ce sera la conclusion. Romains chapitre 10, versets 9 à 10. Romains chapitre 10. Versets 9 à 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu reconnais qu'il est le Seigneur, si tu reconnais qu'il est le Christ, et tout ce que ça implique, évidemment, donc qu'il est le Sauveur, que j'ai besoin d'un Sauveur, sinon Dieu ne l'aurait pas envoyé. Si tu reconnais, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, sous-entendu, Dieu l'a ressuscité parce que lui, le juste, est mort, et n'aurait pas, et n'a pas mérité de mourir. Dieu l'a ressuscité pour montrer que Christ n'était pas pécheur, sinon la mort l'aurait retenu. Et donc, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car en croyant du cœur, on parvient à la justice. C'est-à-dire que en croyant, en me confiant en Christ, je reçois le bienfait, le bénéfice de la justice de Dieu en Jésus. Et en confessant de la bouche, on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, et nous pouvons lire le verset 11, « Quiconque croit en lui ne sera pas confus. » Autrement dit, si vous vous confiez dans ce Christ Jésus, dans ce Jésus de Nazareth, vous ne serez pas confus. Oh, il y a bien des choses dans lesquelles nous nous confions dans ce monde qui nous rendent confus après. Même des proches, des amis, des parents, n'est-ce pas ? Qui, nous espérions, auraient fait telle ou telle chose pour nous, ou nous auraient soutenu ou aidé dans telle et telle difficulté. Et nous sommes parfois déçus. Et c'est logique. En revanche, celui qui se confie dans le Seigneur ne sera jamais confus. L'invitation qui nous est faite ici, c'est de ramasser la confiance absolue que nous sommes parfois tentés de mettre dans un être humain pécheur et de la transporter, de la déposer sur Jésus-Christ. Parce que là, cette confiance ne sera jamais déçue, jamais rendue confuse. Voilà ce qu'il nous faut communiquer, ce qu'il nous faut croire, si nous ne le croyons pas encore. Ce matin même, tu seras sauvé si tu crois en Jésus. Et d'autres seront sauvés au fur et à mesure que fidèlement l'Église de Jésus-Christ répandra la connaissance de ce crucifié. Nous sommes plus de 2000 ans après ces événements, en tout cas près de 2000 ans après ces événements, et comment pouvons-nous expliquer qu'on en parle encore un dimanche matin au lieu de faire la grâce matinée, si ce n'est l'évidence de la puissance de la parole de Dieu qui âge après âge, époque après époque, culture après culture, malgré les prétendues évolutions humaines, continue de répondre encore aux besoins de l'âme humaine. Aujourd'hui, je te le dis, tu seras au paradis avec moi. Bénissons Dieu et peut-être, je ne sais pas Gilles, est-ce que tu avais prévu un autre chant après ? Non. Je vous propose peut-être de chanter en réponse à ce que nous avons entendu dans les carnets.